Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.
Bonjour, malaika. Bonjour, 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 auditrices et auditeurs de Radio Galère. Nous sommes effectivement sur Radio Galère pour l'émission Livres et Amis en ce mercredi 26 novembre. Dominique et Françoise au micro, et puis de l'autre côté à la technique, il y avait Clément, et puis il y a Swan qui arrive, et puis il y a Mamadou qui est stagiaire en réseau, en informatique des réseaux. Donc voilà, il y a du monde pour faire la technique. Eh bien, nous vous avions abandonné avec des rediffusions quelques semaines, et même la semaine dernière sans rediffusion. Je suis désolée, un petit couac de transmission entre justement nous et l'antenne. Alors en musique, un couac, c'est une fausse note, et en radio, c'est pas d'émission. Alors vraiment désolée, c'est de ma faute. De temps en temps, il y a des trucs, c'est pas comme il faut. Alors ce matin, désolée encore, je suis arrivée à Marseille hier soir. J'ai pas encore vraiment repris pied dans la vie marseillaise, mais tout va bien. Ici, il fait beaucoup plus ensoleillé qu'au nord. Il y a du vent, oui, mais enfin quand même, ça va. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je parle plus fort, il faut que je relève mon micro, il faut que je fasse... Voilà, ça va mieux comme ça. Donc, on va essayer non pas de souffler dans le micro, mais de parler dans le micro quand même. Je vais vous parler avant les bouquins, je vais vous parler un tout petit peu cinéma. À la Baleine, il y a un film du Festival des films des coloniaux, ça s'appelle le DFF, autrement dit le Decolonial Film Festival, et ils nous remettent une projection de soundtrack tout un coup d'état, bande sonore pour un coup d'état, le film dont je vous avais dit beaucoup de bien sur le Congo, les premiers mois de l'indépendance du Congo, Kinshasa, qu'on a appelé Zaïre pendant un certain temps, et en particulier donc sur ce coup d'État fomenté par la CIA contre le Premier ministre Patrice Lumumba. Donc, allez voir Soundtrack pour un coup d'État, ça vaut le coup pour la musique, ça vaut le coup pour la leçon justement... de politique et de décolonisation, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à aller voir? Oui, à la Baleine, il passe toujours la petite dernière de Afzia Erzi, ça c'est bien aussi. Et puis au Gyptis, ce soir, il y a Entire Child, qui est un morceau d'un, enfin on pourrait dire d'une série de films, de trois films de Monsieur Georges. On avait vu je crois, les deux premiers épisodes au Gyptis il y a quelques mois et quelques semaines. Et puis là, c'est donc le dernier. C'est très intéressant. Et puis, il passe toujours un simple accident de Jafar Panahi. Et puis, à l'Alhambra, il passe Dossier 137 et surtout... The Voice of Hind Rajab, le film palestinien sur cet enfant ciblé par Tsahal, par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, et tué avec toute sa famille malgré tous les efforts que font les gens du Croissant Rouge pour essayer de la sortir de cette voiture. Le film est glaçant, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment très chouette. C'est un film de la metteuse en scène, réalisatrice tunisienne, dont le nom m'échappe là tout de suite, mais vous le savez sûrement aussi bien que moi. Donc, allez voir de toute façon la voix de Hind Rajab. C'est vraiment très remarquable. Et puis théâtre à la Criée, théâtre à la Joliette. Alors à la Joliette, vendredi et samedi, il passe un spectacle qui s'appelle Non-lieu. Non-lieu par le Mukden Théâtre. C'est sur la mort de Rémi Fraisse. Vous savez, Rémi Fraisse est mort il y a 10 ans déjà. Moi, j'aurais tendance à dire tué par les gendarmes, mais justement, il y a eu un non-lieu. Et ce non-lieu des gendarmes à l'origine de la mort de Rémi Fraisse, c'est vraiment intéressant parce que ça fait complètement écho au film de Dominique Moll qui s'appelle Dossier 137, donc, et qui parle des enquêtes sur les violences policières et du fait que pratiquement, en effet, les policiers ou les gendarmes ne sont jamais condamnés parce que le système est tel qu'ils peuvent passer à côté des condamnations. Bref, non-lieu, c'est vendredi à samedi au Théâtre de la Joliette. Alors, revenons quand même à nos lectures. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques semaines, je vous avais lu, enfin nous vous avions lu, non, j'étais peut-être toute seule, je ne sais plus. En tout cas, nous vous avions lu sur Livres et Amis un ouvrage collectif, des extraits d'un ouvrage collectif qui s'appelle « Comme nous brûlons ». Et c'était le numéro 1 d'une revue qu'un collectif donc essaye de faire paraître sur les immigrations à Marseille. Et aujourd'hui, nous vous lisons des extraits d'un autre recueil, d'une autre édition. Ça s'appelle « La République indépendante des immigrations des immigrés de Marseille ». Donc, La République indépendante des immigrés de Marseille, c'est édité par un autre collectif qui s'appelle Uncivilized et qui, en effet, se revendique comme non civilisé, puisque ce collectif, Uncivilized, est ancré dans des pratiques décoloniales et communautaires. Il a été fondé par Amine Béjaoui et Kmar Douaghi, par et pour des communautés issues du Sud global. À travers des expositions, des publications, des ateliers, le collectif déconstruit les récits coloniaux dominants et amplifie les voix marginalisées en cultivant des formes de narration, de réparation et de réappropriation en dehors des cadres normatifs et institutionnels. Il revendique le parrainage de Kenny Arcana, dont on écoutera une chanson tout à l'heure pour la pause. Kenny Arcana, dans un de ses raps, a dit « Centre-ville, Mars, pas besoin de présenter ma ville, ça rappe depuis les premières heures, microphone branché à vif. Identité marseillaise, ni New York, ni Atlanta. Nous, on reste fidèles à nous-mêmes, on n'attend pas et on se bat. » Alors, voilà la référence de Kenny Arcana et puis un certain nombre de textes donc, que nous allons vous lire en alternance, Françoise et moi, tirés de ce recueil de la République indépendante des immigrations de Marseille. Alors, le premier texte, c'est Françoise qui va vous le lire. Il s'agit d'un texte de Ayman Lahiem. Et vous allez voir, c'est un texte que finalement tout le monde pourrait avoir écrit sur Marseille.
Marseille est une claque. Marseille est une sommation à l'émerveillement glorieux et réel. La mer, le ciel, le relief et le soleil rameutant les mouettes qui hurlent leur fascination pour cette ville. Marseille est une renaissance qui vous sort d'un monde de repli, de froid et de raideur. Pour vous dorer à ces suaves torpeurs, tout, d'un seul coup, vous assène en offrant sa beauté crue. La vie s'y célèbre à tout va. Marseille est une sensation qui scelle sable, vent, et en marchant, roule sur le front d'un escalier. Marseille sent le rêve de vagues mêlées de sang, frais, au son d'albatros sur île en écrin de mer. Tant de choses s'y sont déroulées dans le vacarme silencieux des histoires. Je ne sais ce que le port fait aux vieux visiteurs qui croisent les nouveaux sédentaires, mais on y répète que les gens se confondent à leur territoire, que de cette fusion naît soit le salut, la gloire ou bien l'absence, l'oubli. Cette ville m'a appris que le temps sert à oublier tout autant qu'à se souvenir. Partout où je vais, je la vois comme je la perds. Marseille n'aura pas échappé à cette règle. Marseille est un spectacle en itinérance où toutes et tous s'adonnent à cœur joie pour garantir la meilleure expérience qui soit. Marseille comme Alger sont mes manèges à moi. Soudain, au détour d'une pente, ça hausse le ton, ça se cogne, ça se met des bâtons dans les roues de la valise au lieu d'huiler le tout. Faudrait que ça glisse comme sur des roulettes pour nous tous, bon sang. Arrêtons ce petit jeu et tournons au manège. Si la Samsonite, ni la Samsonite, ni la Delce, ni la contrefaçon Louis Vuitton n'arrivera avant. Nous sommes tous traités à la même enseigne, peu considérés de la même manière, en passant par le même protocole, la même procédure qui nous tourne en bourrique, car de toute façon nous ne sommes bons qu'à faire tourner le manège selon eux. Aux quatre coins du ring, il y a des feux qui clignotent. Ça cligne, ça bip, ça squish selon si on drift. On fonce ou on se rentre dedans, fort. Parce qu'il faut se taper dessus, vois-tu. Il faut s'en vouloir un peu pour aller dedans, pour aller au-delà. Se faire mal un peu et risquer de se faire massacrer ou marcher dessus. Marseille, de manège à bagagerie, il n'y a qu'un pas. Ainsi, se risquer toujours tout le temps et en plus, faudrait le mériter tout ça. Être conscient de la chance que l'on a à faire tourner le manège, à l'alimenter constamment dans son tourbillon frénétique aux faux airs de valse romantique. Il y a la petite musique du carillon qui accompagne et qui berce à force ses entêtants. Ça transperce les tempes et les tympans, ça interpelle et ça rend fou. Heureusement, Marseille, elle, sert de zone tampon à tout ce petit cirque qui me fait bien bader parfois. De plus en plus souvent même, de ça au fascisme et à l'extrême droitisation de l'opinion, comme on l'entend partout, il n'y a qu'un pas dans l'exploration de la haine de soi. Mais dans tout ça, cette ville reste mon bastion. Marseille, elle peut se permettre d'être une bagagerie pour les valises qui se feraient éjecter du manège démoniaque. Une zone de repos pour souffler un peu entre deux rounds, entre deux rives, entre deux rixes. Elle sait le chemin très long pour toutes ces roulettes de valises qui la foulent quotidiennement. Le manège ne connaît pas de répit. Lui, il faut rentabiliser chaque tournée, chaque récit. Mais je sais que Marseille sera là, pour moi, ma valise, mes espoirs et mes peurs. Toujours.
Oui, Marseille, donc, un peu comme une étape, mais aussi une zone d'installation pour ceux qui voyagent, pour... ceux qui viennent d'ailleurs, et une façon de vivre, bien sûr, une façon de s'installer, une façon de subir, comme dit Ayman Lahim, le manège, mais aussi s'installer avec les autres et rencontrer la fraternité, rencontrer l'accueil. C'est ce que disent très souvent les gens qui, justement, arrivent à Marseille. Mais on va revenir, après cette première impression vécue, on va revenir à la préface du collectif, puisque la préface du collectif a été écrite par Nora Mekmouche, que vous connaissez sûrement comme écrivaine de narration et de poésie, comme éditrice aussi justement d'un certain nombre d'ouvrages concernant Marseille. Donc elle a préfacé ce recueil parce qu'elle voulait elle aussi donner son marrainage à, disons, un groupe de jeunes auteurs ou de jeunes qui, même sans être des auteurs, ont participé au recueil. En découvrant ce recueil polyphonique, multiple, je retrouve une émotion éprouvée il y a plus de 20 ans. Je retrouve des présences, des fragments de vie qui m'invitent, nous invitent à nous tenir à nouveau au seuil, à laisser venir ce qui déborde des marges, des frontières visibles et invisibles de Marseille. Parce qu'il s'agit de Marseille. Marseille, cette ville porosité, cette ville-île, celle qui m'a accueillie il y a plus de 20 ans. Elle est la matrice de cette polyphonie. Elle est là, dans chaque recoin de rue, dans chaque recoin du livre. ville refuge, ville fracture, ville où l'on apprend à se frayer un passage. Je l'ai arpentée, cette ville, à la recherche de témoins. J'ai tendu mon micro dans les cuisines, dans les centres sociaux, dans les appartements et dans les rues. J'ai attendu que la parole vienne, que la confiance se tisse. J'ai compris qu'à Marseille, rien ne se dit sans lien et que tout récit est une traversée. C'est dans cette même Marseille que de nouvelles voix se sont ancrées en proposant une trame narrative toujours plus incarnée. Celle de dire pour ne plus être dit ou être dite. Celle de raconter, non pour expliquer, mais pour s'inscrire dans une filiation invisible. Celle des marges qui s'écrivent d'elles-mêmes. Ce recueil m'interpelle par sa force collective. Il est un territoire poreux aussi. Il n'impose rien. Il ouvre, il accueille, il refuse les hiérarchies et les assignations. Il rend audibles des voix, des langues. Il les polyphonise. Il affirme notre présence au monde. Il affirme que nous avons nos langues, nos désaccords, nos appartenances mouvantes, nos amours marginales. Il proclame, contre vents et frontières, une souveraineté intime et partagée. Ces voix composent une polyphonie rugueuse, incarnée, nécessaire. Chacune porte un fragment du territoire que nous tentons de réinventer. Elles sont partout, dans chaque interstice du récit. Elles sont ce lieu où se fabrique un nouveau village, où l'on retrouve les traces d'une dépossession et le désir d'une réappropriation. Un lieu héritage né d'une filiation invisible, faite de lutte, d'exil, d'amour, de désaccord. C'est depuis ma place que je me tiens aux côtés de celles et ceux qui portent les textes qui composent ce recueil, en filiation, en écho, en solidarité. Entre les pages, entre les lignes, se dessine une république d'alliances fécondes, une république indépendante, incarnée, vivante. La République indépendante des immigrés de Marseille. Voilà, c'est donc la préface de Nora Mecmouche et ensuite nous allons revenir au texte des auteurs avec par exemple celui d'une écrivaine qu'on a déjà lue ici, que vous connaissez bien, Nelly Slim. Et Nelly Slim a évidemment participé à ce recueil en envoyant son petit texte. Et son petit texte, ben vous allez voir, il est quand même bien ironique. Celui d'une jeune femme installée à Marseille. Installée à Marseille, peut-être pas tout à fait comme sa famille l'aurait souhaité. Alors une jeune femme, oui, qui reçoit à Marseille la visite de sa mère. Vous allez voir, vous allez plutôt écouter.
La clé tourne dans la serrure. J'ouvre la porte. Toi, sur mes talons, tu me dépasses impatiemment, tu veux tout voir. Ton regard avide se pose sur le couloir, les rideaux, les chaussures alignées sur le meuble en métal. Tu es heureuse d'enfin découvrir chez moi, chez moi. Depuis que je suis ici, tu ne m'as pas rendu visite une seule fois. Non pas que tu n'aies pas eu envie, non, c'est moi qui n'ai pas créé l'occasion. J'ai évité, contourné, donné des réponses vagues qui restent flottantes entre nous, et encombre sans bruit. Marseille, pendant longtemps, je voulais que ça soit à moi. Des rues que je parcourais sans que tu n'en saches rien. Des gens dont tu ne connaîtrais jamais le visage. Tu m'appelais et je ne disais pas grand-chose de ce qui occupait mes journées. Le strict minimum, de quoi te contenter jusqu'au prochain coup de fil. Même mon adresse, je refusais de te la donner. Tu savais que j'habitais Marseille et pour moi ça suffisait. Avec le temps ici, j'ai laissé traîner mes mots, retrouver ma nonchalance, réhabiter ma peau au soleil, arrêter d'être productive comme me le demandait le reste du monde et toi, surtout toi. Dans ta voix inquiète de l'autre côté du combiné, dans tes questions répétées sur comment je menais ma vie, il y avait combien tu avais travaillé dur pour mon confort, pour un métier, une situation que tout ça ait valu le coup. Les enfants d'immigrés savent qu'il n'y a pas d'autre choix qu'être à la hauteur des sacrifices qui les précèdent. Quand tu débarques dans la cuisine, machinalement, je vérifie l'état de l'évier, je range ce qui traîne. Je sais que tu remarqueras même la plus petite trace de saleté. Chez toi, Tu as toujours mis un point d'honneur à ce que le plan de travail soit impeccable, le sol sans aucune miette. On dirait presque que tu n'habites pas là, mais je sais, pour t'avoir vu faire, que tu récures tout dès que tu as fini. Je me surprends à faire la même chose, immédiatement après le repas. Je fais la vaisselle. On me dit de m'asseoir, qu'on aura bien le temps de faire ça plus tard, mais c'est plus fort que moi. En lavant ma cuisine, en la laissant impeccable, je transporte un peu de toi. Marseille a été la ville de la désertion. Plus de course à l'argent, plus 45 minutes de transport bondés parmi les visages gris de fatigue et la beauté partout, mais nulle part accessible. J'ai écouté Kenny Arcana en boucle en croyant avoir trouvé le paradis, un endroit qui me rappelle avant la rive tunisienne sur laquelle je suis née et traînée dehors sans regarder l'heure. Je voulais combattre l'inertie et être la fille du vent de la chanson, des slogans plein la tête, présente à toutes les manifs et chômeuses professionnelles. J'évitais de te raconter ma vie parce que comment te dire mes journées pleines de faire des courses pour tenir le bar associatif du lendemain, voler dans les supermarchés, filer des coups de main à un squat, boire des canettes à même le sol. Ça n'avait pas de sens, pas dans l'existence que tu t'étais construite et que tu voulais pour moi. Je me sentais blanche et privilégiée d'avoir le temps de traîner, alors que les trams étaient remplis d'yeux cernés de 6 heures du matin, comme il y en avait dans toutes les grandes villes. Tu avais travaillé dur pour que je puisse ne rien faire. Dans ta visite de l'appartement, tu trouves que ma chambre, c'est la mieux. Elle est bien décorée, joyeuse. Tu t'attardes sur les couvre-lits rose pâle et le rideau jaune, les livres qui débordent des étagères. « Regarde, je te dis. » Tu tournes les yeux, mais partout, sauf là où mon doigt pointe. « Maman, regarde là. Une photo de toi et moi. Je suis petite, 2 ou 3 ans. Les joues rebondies de l'enfance et un nœud rose dans mes boucles serrées. Sur le papier brillant, tu me serres dans tes bras et tu souris. Pendant quelques secondes, tu fixes la photographie punaisée au mur. » Je crois que ça te fait plaisir d'avoir encore une place dans cet univers où de toi et de Tunis, il n'y a plus rien. Allez, je te dis en te prenant par les épaules, dépose tes affaires, on va faire un tour. Je suis heureuse de te montrer ma ville. Je suis fière de Marseille. 7 ans que j'y habite, la durée la plus longue depuis que je suis partie de notre maison. Ici, je m'en suis fait un foyer. Avec ravissement, je t'embarque dans une visite du vieux port, de la Canebière, des rues pavées du Palmier. J'énumère le maigre nombre de parcs, les plages qui longent la corniche, le nombre d'arrêts du bus 83 jusqu'à la première en partant du centre-ville. Tu m'écoutes distraitement, tu observes. Il n'y a pas de décoration de Noël ici, tu fais remarquer. Avec ton accent, tu dis Noël au lieu de Noël. Non, j'admets. Dépité que ça soit la seule chose que tu commentes. Je te fais faire l'ascension jusqu'à la bonne mère. Tu trouves que c'est joli. Quelques minutes, tu t'animes. Tu prends des photos comme les centaines d'autres touristes sur le parvis. On part en exploration dans des quartiers où je ne vais jamais. Vers la mer. Tu veux voir la mer, comme quand on vivait là-bas à Tunis. Comment on va à la mer depuis la basilique? On dévale les toutes petites rues. On observe avec envie les villas perchées. Et puis il fait nuit, tu as froid. Je fais pipi dans un coin de rue pendant que tu fais le guet, en pouffant, et on rentre dans le centre-ville bredouille. On n'a pas vu la mer de près, pas aujourd'hui. À la fin de ton séjour, je t'accompagne à la gare prendre le train qui nous rendra à la distance qui est la nôtre. Le temps de l'attente, on prend un café au pied des escaliers. C'est le genre d'endroit bobo dont je cherche à imiter la faune obsédée par les lattes hors de prix et les accessoires upcyclés.
Les lattes.
Oui, ça se boit. Mais avec toi, ça sonne incongru et faux. Je me tortille gênée sur le banc, en bois, pendant que tu détailles la carte à laquelle je sais que tu ne comprends rien. Alors, Marseille, t'as aimé ? Mon ton est plus anxieux que ce que je voudrais laisser paraître. Après tant de temps à te tenir éloigné, à faire une vie pour moi, débarrassée de ton regard et de tes exigences, prise dans mes banales considérations d'enfant du Sud, de produit des colonies, de génération qui veut boire des cafés hors de prix sans la gravité du monde sur les épaules, sans devoir travailler pour prouver, sans vie meilleure à conquérir, voilà que je me préoccupe de ton assentiment. Tu me regardes en triturant le bout de la carte de tes mains fatiguées. Ma fille, tu appuies en secouant la tête. Tu sais de quoi qu'il arrive, je te soutiendrai. Tu t'humectes les lèvres, comme pour prendre ton temps, pour ne pas m'asséner tout de suite la sentence. Mais, je te regarde, tu me regardes, le temps d'un léger silence, et rapidement tu finis. Ça ressemble tellement à Tunis, ici. À quoi ça sert de vivre en France si c'est pour être entouré que par des immigrés ?
Eh, à quoi ça sert de vivre en France si c'est pour être entouré que par des immigrés ? C'est ça la République des immigrés de Marseille. Bon, Nelly Slim, évidemment, je vous le disais, elle met une certaine ironie dans cette histoire, dans ce petit récit de la visite de sa mère qui, évidemment, rêvait d'une installation bourgeoise et stable pour sa fille. Eh ben, elle peut être rassurée, hein, parce que Nelly Slim, elle a bien réussi, ses livres se vendent bien et je pense que voilà, elle va pouvoir offrir à sa mère le symbole de la réussite par les livres qu'elle édite. Mais au moins, c'est vrai, elle est chez elle et elle est chez elle à Marseille. C'est assez drôle finalement parce que dans l'autre collectif qu'on avait lu, Comme nous brûlons, c'était très international, alors que dans La République des immigrés de Marseille, à part une jeune femme mexicaine et une jeune femme péruvienne, dont on verra quelques extraits tout à l'heure, les textes ont été écrits essentiellement par des jeunes d'origine maghrébine. Et donc, eux, ce qu'ils aiment à Marseille, bah oui, c'est que ça ressemble à Tunis, ça ressemble à Alger. Au moins, il y a du soleil, il y a de la lumière. C'est pas comme ce fichu Paris, n'est-ce pas, qui peut-être donne les clés d'une certaine réussite sociale, mais qui, en tout cas, est bien invivable quand on vient des bords de la Méditerranée. Donc, je vais vous lire un tout petit texte, un tout petit poème en prose, dirait-on, qui lui aussi nous parle de Méditerranée et de la traversée de la Méditerranée. Donc, nous allons retrouver un court texte d'une autrice, d'une jeune autrice, Selma Thiès, qui nous livre « La saison des clémentines ». Kabylie, Kabylie, j'entends Amazir, comme ma grand-mère qui me parle de ses yeux. Jedi, Mohand, Jida, Wardia. Mes grands-parents sont arrivés en France entre 1962 et 1963. Mon grand-père en 1962 pour répondre à l'appel aux travailleurs. Ma grand-mère, quelque temps après, au moment du regroupement familial. Ce que je sais, c'est que ma grand-mère, Jida Wardia, est arrivée en France par bateau. Elle est arrivée en bateau à Marseille avec son bébé dans les bras. À son arrivée en France, c'était presque une fuite de là où elle venait. Ce qu'elle a fui, je ne le sais pas. On dit que c'était très dur là-bas. En arrivant, elle est allée du port à la gare Saint-Charles, à pied, avec son enfant dans les bras et une clémentine dans la poche. Sa fille Yamina et une clémentine pour traverser la mer. Elle a commencé à monter les marches de la gare, ses marches, ses grandes marches, ses marches après ses marches, et en arrivant en haut, elle a fait un malaise. Moi je suis Selma Thiès, la fille d'Abia Nasri et de Sylvain Thiès. Petite, pour ma grand-mère, j'étais la fille d'un Français et je suis restée pour elle la fille du secret. Un secret, ça doit se garder. Alors longtemps, je n'ai rien su de l'histoire de ma mère et donc rien su de l'histoire de ma grand-mère. Tant de choses que je ne sais pas mais que j'ai senties. Que je sens encore. Je sens les regards de ma grand-mère depuis le jour où je l'ai rencontrée et je sais qu'elle sent les miens. Il paraît que je lui ressemble, oui. Je sens que je lui ressemble. Et même ce qui est entre nous a été tissé au plus profond de nos chairs, au plus profond de nos cœurs. Les phrases qui racontent tout cela s'écrivent avec les années. Les marches de la gare Saint-Charles, c'est la seule image que j'ai gardée finalement du passage de ma grand-mère entre les Kabylies et la France. Elle est venue avec un bébé et une clémentine. Alors les escaliers, quand je les emprunte, c'est comme si je revenais de là où elle est venue, comme si je pouvais la suivre depuis ses racines, depuis nos racines. Quand je regarde les marches, je la vois, elle, de dos, monter les marches avec sa fille et une clémentine. Je regarde ses pieds et je sens dans mon dos ce qu'elle a laissé dans le sien. Marseille, c'est les premières images des mots que je connais, oui. C'est les marches qu'on monte, les marches témoins d'une histoire passée sous silence. Mais j'aime la saison des clémentines. Elle est encore plus belle parce qu'elle guérit. Elle guérit par les mots qu'on a prononcés ou qu'on n'a pas prononcés. Alors, le poème des clémentines, vous l'avez compris, c'est le poème du souvenir. On va évoquer d'autres souvenirs, ceux de Kenny Arcana, dont on parlait tout à l'heure. Kenny Arcana dans Fille du vent, c'est la musique, c'est la chanson que va nous passer Swan. Et le clip est super, pensez à aller voir le clip si vous avez le temps.
Libre comme le vent, j'ai mis les voiles, oui j'ai tué l'impossible. Ici fille de l'étoile, vie de déboire, j'ai fui au large, je lâche ma rage et mes larmes, j'essuie, je suis et file quand les signes le décident. Je m'incline à la vie, même mes flips se résignent sur la route vers l'inconnu. J'écris mon récit, terre promise, mon exil, loin de ce que le monde exhibe. Fille du vent de l'énigme, libre mais digne, je me délivre, éternelle pèlerine, digne ennemi de la routine, la tête pleine de rimes, à l'heure où leur monde s'engloutit. Sanglotant, je suis parti là où le soleil a le sourire, en quête de ce dont juste la mal souvenir. Liberté, mon fou rire, elle dicte ma voix. Je combats l'inertie, appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que je combats l'inertie, la routine, je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent, parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. J'avance entre les hauts et les bas, je rebondis quand le sol s'écroule sous mes pas. J'ai grandi sous l'étoile, en crise, trop rempli, mon glacial froid banquise, être instable, pas tant pis. En vie, tant que l'aventure m'appelle, c'est en marchant sur la terre que je guéris de ma peine. Élan de folie aux yeux de l'autre, je tourne autour du soleil, libre comme l'air et le sourire aux lèvres. De train en train, je suis parti par la fenêtre pour être libre. J'ai morflé quand j'avais pas l'âge de l'être. Alors nique ta morale, peut-être vie à l'occasion, ou na vie à l'occasion, ma vie un hymne à l'audace. Tous à nos places, jamais la terre est mon pays, pèlerinage ou périple, être libre ou périr comme un filet d'eau pure sur mes plaies si brûlantes, connectées au présent. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que je combats l'inertie, la routine, je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent, parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Je suis bien qu'en mouvement, retrouvant sans mes tourments, l'ouvrant, je cherche Dieu loin des masses et des couvents. J'ai souvent pensé à tout plaquer pour vivre mon esprit pleinement, tellement le monde moderne est éprouvant. Mais ma mission est ici, alors je pars et reviens, comme quoi mon chemin ne partait de rien. Mes pas viennent de loin et n'ont pas fini de marcher, jusqu'au lever du jour où quand la mort viendra me chercher. Je partirai aussi libre que quand je suis arrivé entre les marées. La vie m'a appris à naviguer d'expérience en expérience comme une lame allumée. Je polis ma pierre jusqu'à voir mes propres soleils s'aligner. Fille du vent, j'ai jamais oublié qu'on était tous frères, qu'on ne souille pas le soleil avec la poussière. Cœur ouvert, je retrouve mes ailes, m'en veux pas si le système je déserte. Appelle-moi, fille du vent, parce que je combats l'inertie, la routine, je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent, parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Fille du vent, appelle-moi, appelle-moi, fille du vent.
fille du vent, oui. Donc, ceux qui partent, ceux qui reviennent, ceux qui viennent, ceux qui repartent. C'est un petit peu le motif de la chanson de Kenny Arcana. C'est aussi un peu l'idée de ce recueil de textes de la République indépendante des immigrés de Marseille, puisque, en effet, les textes sont écrits par des personnes, des individualités toutes différentes et qui livrent en effet leurs images ou leurs ressentis de Marseille. Alors, je vais vous lire un texte un petit peu différent. Je reviens sur Kenny Arcana. Je vous disais d'aller voir le clip parce qu'il y a des images d'Afrique, des images d'Amérique latine, beaucoup d'images de Madagascar. Et c'est vraiment très beau. Ça donne bien cette idée de multiculturel, de multicolorié aussi qu'on peut avoir dans les quartiers de Marseille. Et dans l'individualité justement des gens qui peuplent la ville. Alors, je vous parlais, oui, d'un texte un peu différent, d'un texte poétique. On va continuer avec un genre de poème de Adel Mohamedi. Et il a écrit ce texte justement un peu comme un ressenti de la ville. Avec des lignes, évidemment, moi je vois le texte, vous le voyez pas, avec des lignes irrégulières, des lignes qui commencent au milieu de la page, des lignes qui se détachent les unes des autres, voilà. Et Adel Mohamedi, il va nous rappeler que Marseille, c'est la Méditerranée. J'arpente ces rues en cherchant qui je suis, chose simple au demeurant, complexe, j'arpente sans cesse, le souffle parfois court, comme si mes souvenirs y résidaient. J'arpente à m'en arracher le verbe du torse, à tout dégobiller presque de force, dans une forme de quotidien qui n'en est pas. Je suis d'ici, mais je n'en suis pas. Je cherche, je fouine, je gratte ces façades en espérant y trouver des traces de ma vie, des traces de qui j'étais, de qui j'aurais pu devenir. Mais je ne suis pas d'ici. Et les oiseaux de malheur ne cessent de le scander du haut de leur siège. Orné, décoré, etc. La menace est là où elle enfle, qu'ils disent. Puissiez-vous vous étouffer dans vos cris? Je ne suis pas d'ici, j'ai amplement compris. Mais Marseille ne vous appartient pas non plus. Marseille, territoire autonome de sa culture propre. Marseille ne vous a jamais appartenu. Je l'arpente comme une terre d'errance. Qu'est-ce que l'exil a fait de moi? Je cherche mon centre. Il n'est pas là, il n'est pas ici. Je cherche mon centre, c'est là que l'exploration devient la traque de souvenirs. Ceux d'une époque qui n'existera plus, alors je cherche mon pays lointain à l'air marin, cette terre proche de l'eau, animée par le feu, ces lieux des contraires dont les êtres sont faits. Ici aussi, une infusion chimique de guerre, de paix, un équilibre précaire, rendant l'implosion proche, sans jamais qu'elle advienne, schizophrénie chronique. Nous portons en nous le bourreau et la victime. Je cherche Alger à travers les rues de Marseille, la mer et le feu, la mer et le feu, oui, désormais je le sais, je suis fils du feu, né de la mer, je suis tout et son contraire. Et le soleil chauffe, caressant les carcasses d'humains, attentif à la vie pour savoir que le soleil chauffe, caresse leurs os, leur peau, leurs yeux. Patiemment, j'aspire au vide, assis, inquiet de voir arriver le pire d'un monde que j'ai connu, duquel je suis au bord. Le soleil chauffe et me caresse encore, rappelant ce temps que j'ai vécu, Alger, mes morceaux de vie inaccessibles, telle une histoire qui ne se raconte jamais entièrement. J'observe Marseille et je mens. Alger me manque et me terrifie. Alger, c'est ma vie, peut-être ma mort. D'ici, je le sens. Quelque chose m'y attend, mais non. Tordre le temps, c'est y arriver, sans mots pour romancer. C'est une nouvelle naissance. Alger, c'était un journal intense, un lieu que je ne peux pas raconter. Je n'ai pas demandé à quitter son port, mais me voilà, à Marseille, cette fois, par choix. Marseille, c'est Alger. Alger, c'est Marseille. Je m'y perds et tout se confond dans le fond. Les odeurs, le son jouent la même symphonie. Marseille, c'est Alger. Oui, je m'y retrouve. Je vois que je peux encore y vivre, même si je n'ai jamais pu y vivre ou si je ne peux plus y vivre. Je sens la mer, je sens l'exil, et l'exil s'apaise de regarder la mer, de sentir le soleil. Je sens tant de choses qui m'appellent, je cherche des souvenirs, mais aussi des souvenirs qui n'existent pas encore. Donc, passé, futur, tout se lit, tout se tresse dans ce poème de Adèle Mohamedi. Et dans un autre aussi, un genre de poème en prose qui est tissé justement des souvenirs, les souvenirs de Lucia Ferré, une jeune femme qui vit dans les quartiers nord, ou qui a vécu dans les quartiers nord au moins, et qui en retire précisément un certain nombre de souvenirs, des souvenirs qui sont les siens, qui sont ceux déjà de ses enfants, qui sont ceux de ses parents, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle continue à aimer à Marseille. Et c'est drôle parce qu'elle a donné à ses souvenirs des noms de lieux, des noms de lieux où elle a vécu et qu'elle a traversé aussi. Et parmi ces noms de lieux, il y a Chagnot. Alors Chagnot, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, dans les quartiers nord, c'est le nom d'un chantier naval maintenant, qui a fermé il n'y a pas très longtemps. Mais surtout, les chantiers Chagnot, c'était une très grande entreprise pendant toute la fin du 19e siècle et pendant tout le 20e siècle. Les chantiers Chagnot, c'était une super grande entreprise qui faisait dans le monde entier, en France, en Algérie et dans le monde entier. Des travaux d'ouvrages d'art. Il construisait des ponts, des très grands ponts, et il creusait des tunnels. Et à Marseille, ils ont creusé le tunnel du Rove. Le tunnel du Rove, si vous allez voir un peu son histoire, il a été creusé aussi par des travailleurs immigrés, et beaucoup d'entre eux y ont laissé leur peau, c'est-à-dire que le tunnel du Rove, il a mis plus de 10 ans à être creusé, et il y a eu beaucoup de morts sur le chantier. Alors, les chantiers Chagnot à Marseille, en effet, c'est pas anodin. Et les chantiers Chagnot, c'est aussi les quartiers nord, même si un certain nombre de gens l'ont oublié. Alors, vous allez voir, vous allez entendre, Lucia Ferré, elle nous parle des quartiers nord sous le verbe de anémone rugissante, Chagnot et grand littoral. Et ses souvenirs, ben c'est ses souvenirs d'une vie à Marseille, peut-être un peu différente du centre, en effet.
Peut-être que le retour tant attendu n'aura jamais lieu. Peut-être que je resterai coincée de ce côté, sans même regarder le bon océan, coincée dans ce coin entre les Andes et le Pacifique, sans horizon bleu, sans île, sans bateau ni mouette. Mais je rêve de rues qui se mixent, de paysages rocheux, de calanques, et de mon corps immergé frôlant le fond de la côte bleue. D'emmener mon fils au cinéma de l'Alhambra, à la bibliothèque municipale de Saint-André, d'écouter de la musique dans le quartier, manger des merguez, marcher jusqu'à une heure tardive dans les rues bondées. Peut-être que cette ville marseillaise ne sera plus jamais la mienne. Peut-être qu'elle sera de construire un pont entre deux endroits et de grimper, ramper, s'étirer, s'ex-matrier. Peut-être que je peux rapprocher chaque rive, embarquer sur un voilier, escalader l'Amazone et finir dans l'Atlantique, tirer sur les cordes jusqu'à l'infini et simplement regarder l'horizon comme un loop. Arriver, partir, être une déviation. Going home. Alice Coltrane. C'est comme écouter le générique « La petite maison dans la prairie » et y insérer des orgues orientales. C'est une navigation éternelle ou une traversée du désert à cheval. Cette maison, cette Marseille, existe-t-elle encore? Je regardais la petite maison dans la prairie avec mes grands-parents le mercredi dans leur appartement de Samatan. Chagnot. Je regarde la ville. Depuis la crique, la ligne de l'horizon se dessine, faussée. Les algues sont de longs cheveux verts qui ondulent et se synchronisent avec la posidonie de ma mémoire. Mon corps se recouvre d'arapèdes, carpettes avec des TN aux pieds. Chaise quechua et une gorgée de Québec, merguez fumante, ici, pas de hipsters. Au loin, Marseille, ville pirate, sans capitaine. Grand littoral, c'était la grande nouveauté du quartier. J'habitais à Saint-André, au-dessus d'une bibliothèque qui donnait sur un terrain de foot en terre battue, au-dessous de la Sète. Un peu plus haut, sur un terrain d'argile, on allait construire le plus grand centre commercial de Marseille. Il y aurait un cinéma, l'UGT Cinécité, et plus de 200 boutiques et un carrefour, ou plutôt un continent à cette époque. Nous nous sommes rapprochés encore plus du grand littoral, sur la colline du Verduron, une vieille maison avec un jardin et des platanes, entre la Bricarde et la Castellane, célèbre pour ses produits, ses accas incessants et pour être la cité de Zidane.
Zidane.
Bien sûr. On est allé voir Pocahontas avec mon beau-père et sur le chemin du retour, je lui ai demandé de me faire tirer une taffe sur sa cigarette. J'ai vu Titanic deux fois dans ce cinéma. J'ai pleuré quand Léo meurt parce qu'il n'y a pas assez de place sur la planche. Le cinéma a fermé rapidement. Je ne sais pas si c'était à cause des glissements de terrain ou parce que ce n'était pas rentable dans un quartier aussi pauvre. Derrière le grand littoral a eu lieu le féminicide de Ghofrane Haddaoui, lapidé à mort par deux adolescents. L'un des responsables était dans mon collège. Cette montée, cette descente du chemin du littoral, je l'ai arpentée tant de fois. Le mot féminicide n'existait pas à l'époque. Quant à Grand Littoral, c'est à Grand Littoral que j'ai eu mon premier rendez-vous avec l'ami du copain de mon ami, rencontré au Quick. Il se faisait appeler Lee. J'avais des photos de lui sur mon Skyblog où j'intégrais en comique 100 MS Mon Cœur en turquoise à côté de sa photo. L'hiver dernier, en rangeant mes courses, j'ai aperçu des enfants faire du roller sur le parking du centre commercial. Une nuée de pigeons s'envole. Je me retourne et les enfants avaient disparu. Le grand littoral me manque, avec ses mouettes en plastique au-dessus des portes, son parking avec vue panoramique sur l'horizon.
Et oui, ce sont aussi les images de Marseille. Ce sont d'ailleurs les images de Marseille, vous savez, tout près de ces grandes lettres de Marseille. Alors, Marseille en Amérique, c'est ce qu'elle vit un petit peu. Lucia Ferré, là, elle est partie de l'autre côté de l'Atlantique. Elle se perd de l'autre côté de l'Atlantique et elle voudrait bien retrouver Marseille. Donc, partir, revenir, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ces images de la République indépendante des immigrés de Marseille, mais ces images de voyageurs aussi qui gardent des souvenirs de Marseille, justement. Il y a dans le recueil un texte un peu plus long, une histoire un peu plus longue. On n'aura pas le temps de vous en lire beaucoup, mais on s'interrompra là quand on arrivera à la fin de notre temps attribué, comme on dit. Et en fait, il s'agit... j'ai perdu ma page en plus, c'est quand même embêtant ce qui nous concerne. Ah oui, c'est parce que je ne vois pas clair, j'ai beaucoup de mal à distinguer les 6 des 8 dans cette impression. Alors donc, c'est une image différente parce que c'est une espèce de récit au long cours, précisément fait d'images. C'est un récit de Umaima Isis Dermoumi. Et c'est donc une jeune femme qui est en partie d'origine égyptienne, comme son prénom intercalaire pourrait nous le dire. Et elle est complètement intégrée à Marseille, mais en gardant des tas d'images d'ailleurs. Donc elle appelle son texte « La chronique d'un amour chaotiquement émotionnel ». Il y a des villes qui t'évaluent, qui te testent, qui veulent que tu prouves ta valeur. Et puis, il y a cette ville, Marseille. Elle t'accueille si tu l'aimes et si tu la respectes, si tu ne veux pas la transformer. C'est une ville qui t'offre une place, si tu l'acceptes telle qu'elle est, vivante, chaotique, imprévisible. Une ville qui ressemble plus à un caractère qu'à une carte postale, comme un air de famille, comme un souffle frais un soir d'été, comme une algue au bout des pieds, une nuit de début de printemps. un lien intime, profond, presque viscéral. Une ville qui s'est glissée dans mon cœur, comme on laisse entrer quelqu'un sans faire de bruit. C'est un entre-deux, c'est doux. C'est aussi la ville où j'ai trouvé l'amour. C'est une ville qui me ressemble, une ville frontière. Je suis frontière, pas complètement d'ici, pas complètement de là-bas. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas complète, je ne veux pas l'être. Mais non, bien sûr. Marseille est dans mon cœur. Marseille, c'est un peu comme ma mère, sauf que Marseille, je l'ai choisie. Alors que je n'ai pas choisi ma mère. Enfin, peut-être si. Ma mère, elle a été jeune dans les années 80, dans un Maroc post-colonial en pleine reconstruction. Elle appartient à cette classe moyenne qui rêvait d'ascension, de respectabilité, de salons bien meublés, de parfums français, de vaisselle qu'on n'utilise que pour les invités. Son imaginaire, sans qu'elle le sache, était nourri d'une vision coloniale du confort. L'Europe comme horizon du bon goût, la peau claire comme norme de beauté, les silences comme preuve d'éducation. Elle voulait un monde propre, poli, ordonné, un luxe discret mais affirmé, une discipline dans les gestes, un français bien parlé, des cheveux domptés, des enfants obéissants, irresponsables très tôt. Paradoxalement, son regard ne venait pas uniquement d'un désir européen. Il était aussi traversé par d'autres élans, des élans arabes par exemple, de l'Égypte de Nasser, de la poésie de Mahmoud Darwish ou de la voix sublime de Oum Kalsoum. Mais une idée du beau façonnée par l'État post-colonial, par la télévision des élites culturelles arabes. Une beauté noble, maîtrisée, lissée. Alors que nous, non. En face de cela, c'est le moche, le populaire, ce qui venait de la terre, de la racine, des campagnes. La musique haïta, les you-you, la mélancolie du rail, la résistance de la carboucha, les habits bariolés, la poussière des marchés. Finalement, les souvenirs qu'on aime, c'est ce qu'il fallait dépasser. Alors ma mère, elle était prise entre deux esthétiques, et je lui suis aussi, bien sûr, cuisiner comme les Français, mais sans toucher à leur viande, et parler leur langue, mais garder aussi celle du Coran. Elle vivait dans les contradictions, moi aussi. Dans cet entre-deux que nous arrangeons, chacun notre manière, entre modernité occidentale et conservatisme bourgeois nord-africain. Elle, elle voulait être moderne sans s'arracher à ce qu'il avait fait. Moi, je me suis arrachée. Mon entre-deux, oui, difficile, il est plutôt dans la rupture. Son entre-deux soigné, poli, mon entre-deux violent, détonnant. Elle voulait nous transmettre ça, la beauté du geste, l'apparence du raffinement. Elle s'est retrouvée inconsciemment à me transmettre sa force, son indépendance, sa liberté qu'elle a tellement cherchée. Et mon moi actuel, c'est finalement tout ce qu'elle n'avait pas rêvé, bruyant, bordélique, tendre, en colère, vivant. Je résiste à cette gentrification du cœur. Je refuse de lisser mes contours pour rassurer. Je préfère devenir un monstre à ses yeux ou aux yeux des hommes, eh oui. Plutôt que de suivre la mode débraillée, maquillée, oui, je suis tout ce qu'elle n'aurait peut-être pas aimé. Alors, dans ce monde-là, dans ce monde où je suis, il faut bien un endroit, il faut bien l'inventer. Un lieu assez vaste pour nos débordements, assez poreux pour nos contradictions, assez vivant pour accueillir nos marges. C'est à Marseille que nos chemins se sont croisés. On se retrouve facilement entre monstres à Marseille. C'est même un titre d'ouvrage. Et nous avons choisi d'y construire notre monde. Surtout que nous n'avons pas toujours le privilège de choisir. Nous n'avons pas choisi où naître. Nous n'avons pas choisi nos parents, nos langues, nos prénoms, nos religions, nos cultures, nos peaux, nos sensibilités, nos pays même. Et les pays, ils ne veulent pas toujours de nous. Alors, beaucoup de beautés que nous aimons se sont faites par hasard. Nous avons hérité de choses que nous n'avons pas toujours demandées. L'école, la société, la famille, les livres, la dictature, le colonialisme, tout ça nous a sculptés, bien contre notre volonté. Et puis, il y a des choses que nous avons pensé choisir dans un choix pur ou pas. nous marchons, nous avançons. C'est pour une rencontre, pour un regard, et avec une déchirure, une urgence, un manque qui fait dévier le chemin. Il y a bien des carrefours que nous ne voyons pas arriver, des détours qui nous tirent vers d'autres ailleurs. Nous pensons que nous avons choisi, mais nous sommes souvent appelés. Ce ne sont pas des décisions claires, ce sont plutôt des mouvements profonds vers ce qui en nous veut vivre, vivre différemment. Dépasser cette part blessée qui ne veut pas mourir, mais qui veut guérir autrement. Une réponse instinctive, avancer, même sans savoir où on va, même si vous avancez avec des plaies ouvertes, vous avancez quand même. Car, au fond, c'est là que tout a commencé, dans l'élan fragile, continuer malgré la douleur. C'est un peu ce que disait Rumi. La blessure, c'est l'endroit par lequel la lumière entre en toi. Alors oui, on répond même avec la douleur. La douleur devient une ouverture, une manière de guérir, une façon de faire de nos cicatrices nos sources de tendresse, de lucidité, de force. Je crois que nos blessures ne doivent pas seulement nous faire souffrir, elles doivent aussi nous faire guérir. Alors c'est l'heure, je vais vous laisser sur cette jolie phrase, ces blessures doivent nous faire guérir. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour d'autres évasions, d'autres horizons et bien d'autres choses que nous ne connaissons pas encore. À bientôt.